Nous continuons dans l'épître des Galates. Nous en sommes à Galates 2. Le titre du message ce matin, c'est « La justification, une déclaration légale ». Alors, on va certainement aborder ce que nous avons vu, en tout cas une partie de ce que nous avons vu ce matin dans l'étude en bas. Nous allons lire les versets à partir du verset 11 pour avoir une meilleure vue d'ensemble du contexte. Nous allons lire les versets 11 à 17. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être justifié par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes non. » Prions. Père éternel, nous te rendons grâce ce matin de ce que nous nous trouvons devant ta parole, Seigneur, et que nous te remercions de ce que tu nous as laissé, cette parole, Seigneur, pour notre instruction. Seigneur, nous te demandons la mesure d'esprit nécessaire pour saisir et comprendre ce matin cette parole d'enseignement, Seigneur, et que ça puisse nous être profitable dans notre marche, Seigneur Dieu, dans cette vie, dans ce territoire dans lequel nous sommes, Seigneur, en attendant d'être glorifié dans la vie éternelle, dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque nous prenons notre Bible, nous voyons deux apôtres poids lourds sautant dans l'arène. C'est une confrontation dans le passage que nous avons ce matin. Nous allons particulièrement nous attarder plus dans les versets 15 à 17, dans ces deux versets-là. Donc, nous avons cette confrontation entre Pierre et Paul. Galates 2 nous donne le plan, en quelque sorte, scène par scène. C'est une des portions de l'Écriture qui a rendu quelques personnes inconfortables, spécialement les pères de l'Église primitive. Deux apôtres sont devenus des combattants sur ce qui pourrait apparaître, qui pourrait être insignifiant. Pourquoi ces deux poids lourds sont-ils nez à nez? Eh bien, laissez-moi vous assurer que ce n'était pas rien d'insignifiant. Ils ne plaidaient pas concernant la couleur du tapis de l'Église. Ils ne plaidaient pas sur qui serait le prochain prédicateur dans l'Église d'Antioche. Non, plutôt la bataille était au sujet de l'Évangile. En raison de la pression des pères de la part des compagnons juifs, des personnes de chez Jacques, c'est ce à quoi Paul fait référence dans le chapitre. Pierre recule et ne communie plus avec les gentils, avec les païens. Il a peur que Pierre exécute des sauts périlleux arrière en raison de la crainte, de la peur. Il y a un retrait majeur dans les habitudes de communion. Galates 2, 12 nous dit: en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Les actions de Pierre n'ont pas seulement créé de sérieuses tensions raciales entre juifs et gentils, mais ces actions ont mis l'Évangile en danger, en péril. C'est ainsi que Paul évalue la situation. Notez le verset 14. « Ah, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. » Paul ne peut pas fermer les yeux ou faire la sourde oreille. C'était sérieux. Et il confronte Pierre les yeux dans les yeux, là dans la salle à dîner, pouvons-nous dire, en face de tout le monde. Les étincelles volent. Le verset 14b, « Je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Maintenant, nous ne savons pas tout ce qu'il a dit à Pierre. Dans certaines traductions, dans certaines versions, il y a des notes qui sont dans les marges, du verset 14 à la fin du chapitre. Mais ces notes ne sont pas dans les versions intégrales, les versions originales. Il est donc difficile à dire quand il a cessé de confronter Pierre. Il est difficile à dire où l'histoire arrête et où la théologie commence. Mais il est clair qu'il y a une transition ici. L'apôtre Paul passe du pronom personnel singulier, ici en l'occurrence « toi » au verset 14, et il passe du pronom « toi » à la personne plurielle « nous » au verset 15. Est-ce que cela fait partie de la remontrance à Pierre? Quelques-uns le croient et d'autres n'en sont pas certains. Il apparaît ici, si ce l'est, qu'il délaisse la controverse au verset 14 en comparaison au verset 15. La plupart des commentateurs croient qu'il y a un changement décisif ici dans l'ensemble de l'Épître. Paul a raconté l'histoire de sa vie en essayant de démontrer pourquoi il est un apôtre. Dieu l'a appelé, il donne son témoignage personnel jusqu'ici. Mais ici, au verset 15, il apparaît qu'il va dans un sens d'une discussion plus doctrinale, plus théologique. En faisant ainsi, nous en venons au cœur ou au thème central de toute la lettre aux Galates. Cela nous a pris quelque temps pour y arriver, quelques 38 versets, si on compte à peu près 38 versets depuis le chapitre 1, qui a quoi, 24 versets, jusqu'à 14 versets, des 14 premiers versets du chapitre 2. Bon, là j'ai perdu ma place, ok. Nous avons ici le but réel de cette lettre, c'est concernant l'Évangile. Paul défendant le véritable Évangile et exposant le faux Évangile. Rappelez-vous le contexte pourquoi cette lettre a été écrite. C'était pour adresser un problème très sérieux, un problème de désertion, d'apostasie potentielle. Reculant au chapitre 1, les versets 7 et 8, Paul mentionne cette apostasie potentielle, ce problème de désertion. Les Galates désertaient, abandonnaient Dieu. Les Galates étaient séduits par un faux évangile, un évangile enseigné par les judaïsants. Paul sortira son scalpel théologique et disséquera le vrai évangile et dévoilera le faux évangile. Il exposera les deux évangiles. Le mot-clé qu'il utilise pour ouvrir le trésor de l'Évangile est utilisé ici dans le chapitre 2, au verset 16. Trois fois, et il est utilisé une fois dans le verset 17 du même chapitre. Donc, quatre fois au total. C'est la première fois que Paul utilise ce mot. Et ce mot, c'est le mot « justifié ». Certains pensent que Galates est sa première épître. Donc, si c'est le cas, c'est la première fois que Paul expose la doctrine de la justification. Ce que nous allons faire ce matin est de mettre l'accent sur Galates 2, 15 et 16, avec un focus particulier, une attention particulière sur le verset 16. Nous allons nous y attarder à la lumière de ces quatre perspectives suivantes. La première, le problème pour le pécheur lorsqu'il pense à la justification. Le deuxième, c'est l'action de Dieu, le juge dans la justification. Le troisième, c'est les bases pour le don de la justification. Et le quatrième, très brièvement, ce sera le seul moyen de recevoir les bénédictions de la justification. Donc, nous avons le problème pour le pécheur, l'action de Dieu, les bases pour le don et le seul moyen de recevoir. Donc, le premier point, le problème pour le pécheur lorsqu'il pense à la justification. La Bible nous parle concernant un homme qui a vécu des milliers d'années passées. Et cet homme, ça fait 25 chapitres qu'on voit avec les enseignements que Marcel nous donne. Son nom était Job. Comme vous le savez, Job a beaucoup souffert. Il a eu une vie difficile, à tout le moins, une partie de sa vie. À un certain moment de sa vie, il voulait même mourir. Mais si vous lisez le livre de Job, vous réalisez que Job est un homme intelligent qui réfléchit. Le livre de Job est bondé de questions. La plupart des questions viennent des lèvres souffrantes de Job. Une question que Job pose au milieu de ses épreuves, Job 9:2, il nous est dit, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? » Vous êtes-vous déjà posé cette question? Si vous vous n'êtes jamais posé la question, espérant que vous l'avez fait, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez pas pensé en profondeur en regard à votre relation avec Dieu et à qui vous êtes vraiment en tant que pécheur. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est une question qui pointe vers un problème profond. En un mot, voici le problème. En raison du péché, nous ne sommes pas dans une relation juste, droite avec Dieu, mais que nous sommes séparés de Dieu. En raison du péché, la Bible nous enseigne que nous sommes coupables, que nous sommes aliénés, condamnés. Je sais que ce n'est pas un concept populaire, mais la Bible ne nous permet pas de s'écarter, de fuir de vérités comme celle-là. Vous êtes pécheurs et Dieu est en colère envers les pécheurs et il y a un endroit appelé l'enfer. Remarquez ici au verset 15 que Paul fait ressortir, relève ce mot peu flatteur, le mot pécheur. L'apôtre Paul prend le péché au sérieux. Nous n'avons qu'à lire Romains 1, 2 et une partie de Romains 3. Et vous voyez qu'il passe presque trois chapitres entiers pour développer la doctrine du péché. Ici, dans Galates 2, il utilise le mot « pécheur » faisant référence aux gentils. Le verset 15, il nous est dit « Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. » Lorsqu'il mentionne ça, il pense aux païens. Il parle en tant que juif. Ailleurs, Paul pouvait dire des gentils dans Romains 2, 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » Les gentils sont sans la loi. Aussi dans Éphésiens 2, 12, que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Les gentils étaient des pécheurs parce qu'ils n'avaient pas de loi pour les guider. Aussi, les Juifs étaient des pécheurs, mais ils étaient privilégiés. Les Juifs avaient plusieurs avantages sur les gentils. Ils avaient reçu la loi de Dieu, ils étaient les récipiendaires de la loi, ils avaient les Écritures de l'Ancien Testament, ils avaient reçu le signe de l'alliance du Sinaï, la circoncision. Voici le point que Paul veut faire. En dépit de tous les avantages, de tous les privilèges, de tous les bénéfices qu'ils avaient en tant que Juifs, ils n'étaient pas réellement en meilleure position que les gentils. Au verset 15, il dit « Nous, nous sommes Juifs de naissance ». Et si on paraphrase, nous pouvons dire « Nous qui avons été élevés à respecter la loi de Dieu et à défendre la loi de Dieu et à aimer la loi de Dieu, nous, Pierre, Paul, Barnabas et chaque Juif qui a cru en Jésus, en sommes venus à réaliser ce fait que de garder la loi ne peut nous sauver. » Nous sommes impuissants, comme les gentils, comme les païens. Nous sommes tous dans le même bateau. Voici ce qu'il dit au verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous sommes, que l'homme est justifié. Cela est vrai pour les Juifs et les gentils. » Mais voici la question. Qu'est-ce qu'il veut dire par « les œuvres de la loi » ? Citation de John Stott, qui donne un résumé de ce qu'il veut dire par les œuvres de la loi. Je cite, « La loi, c'est la somme des commandements de Dieu, et par les œuvres de la loi, il doit agir, faire et obéir à la loi. Les Juifs croyaient qu'ils pouvaient être justifiés par la loi, en gardant la loi, en accomplissant la loi. » Leur position était « Le seul moyen d'être justifié est par beaucoup de travail. Vous devez travailler dur à cela. Les œuvres que vous devez faire sont les œuvres de la loi, qui est de faire tout ce que la loi commande et s'abstenir de la moindre chose que la loi défend. Ce qui signifierait que vous devez garder tous les commandements, tous les 10, ce que nous appelons souvent le décalogue. Vous devez aimer et servir Dieu vivant. Vous devez le mettre en premier. Vous devez respecter son nom, son jour, honorer vos parents. Vous devez éviter les péchés comme l'adultère, le meurtre, le vol. Ne pas dire de mauvais témoignages contre votre prochain. Ne pas convoiter rien qui est à votre prochain. C'était la loi. Mais il y a plus. Si vous voulez vraiment aller au ciel et mériter la faveur de Dieu, les Juifs ont ajouté plus de ce que la loi morale. Ils avaient aussi la loi cérémonielle. Et ils ont dit, vous devez être circoncis, vous devez vous joindre à la synagogue, manger de la nourriture cachère, vous devez prendre votre religion au sérieux, en lisant les Écritures personnellement, assister au service en public, vous devez jeûner, vous devez prier, vous devez donner. Tout cela est partie de la loi. Et si vous faites toutes ces choses et ne faillissez à aucune, vous allez faire vos classes. Et Dieu vous acceptera et vous serez justifié par les œuvres. Donc, relevez vos manches et mettez-vous à l'œuvre. N'est-ce pas ce que la plupart des gens font aujourd'hui? Ils retroussent leurs manches, ils attachent leurs bottines, se tapant dans le dos, pensant que parce que je fais d'une façon ou d'une autre, Dieu prend réellement plaisir par ce que je fais. C'est le salut par les œuvres. C'est la religion « salopette », entre guillemets. Malheureusement, c'est le plus grand mensonge de la vie. Le mensonge que si j'essaie assez fort de vivre une bonne vie, entre guillemets, Dieu va m'accepter et que le ciel est pour moi. C'est ainsi que la plupart des gens pensent. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. C'est ainsi que la plupart des religions, en dehors de ce que nous appellerions christianisme évangélique, c'est ce qu'ils enseignent. Vous voyez, c'est la marque de la fausse religion. Personne ne le savait plus que l'apôtre Paul. Vous allez dire, que voulez dire? Eh bien, il était un pharisien. C'était l'homme qui, avant que Dieu ne le rencontre sur le chemin de Damas, c'est à cela qu'il carburait. C'était un pur légaliste dans le pharisien qu'il était. Si quelqu'un devait aller au ciel, ce devait être un pharisien. Il pouvait dire dans Philippiens 3, 6, « Quant à la justice légale, irréprochable. » C'est vrai en tant que pharisien, en termes de garder extérieurement la loi morale et la loi cérémonielle, Paul pouvait dire « irréprochable ». Cependant, c'est le même homme maintenant, Paul, qui prêchait contre la justification par les œuvres avec toutes les fibres de son être. Il y met l'emphase au moins trois fois ici dans le verset 16 de chapitre de Galates 2, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. L'homme qui a essayé si fort de gagner le ciel par sa sueur et son labeur réalise qu'il était inutile et futile d'y parvenir et que cela ne peut se faire, c'est impossible. Voici pourquoi l'observance de la loi en tant que moyen de justification ne peut sauver un pécheur. Parce que la loi demande la perfection. Non pas seulement le lundi matin, mais elle demande une obéissance parfaite, perpétuelle, universelle, chaque dimension de votre vie. C'est ce que la loi de Dieu demande. Il n'y a personne né d'Adam qui n'ait jamais vécu une vie parfaite. Non, nous péchons à chaque jour, en pensée, en parole, en action. Et vous avez probablement péché des milliers de fois déjà aujourd'hui. Nous sommes nés pécheurs et nous violons la loi de Dieu d'une manière ou d'une autre chaque jour de notre vie. La raison pourquoi la plupart des gens pensent qu'ils ne le font pas est qu'ils ne comprennent pas la profondeur et la largeur de la sainte loi de Dieu. Vous voyez, c'est le problème que nous faisons face en tant que pécheurs. C'est le problème que nous ne pouvons résoudre ou fixer ou régler. Chaque tentative de nous justifier en gardant la loi, une religion de bonnes œuvres, ne fait qu'éviter le problème, ne fait que le rendre pire. C'est comme mettre de l'essence sur un feu qui est hors contrôle. Vous ne vous aidez pas, vous ne gagnez pas le sourire de Dieu lorsque vous pensez que vous pouvez gagner le ciel en gardant ou en vivant une bonne vie. Plutôt, en fait, vous faites que Dieu est plus en colère. Vous ajoutez péché sur péché parce que dans tout cela, il y a énormément d'orgueil, d'arrogance et d'ignorance. Eh bien donc, quelle est la réponse? Eh bien, la réponse ne se trouve pas en vous, en moi. Elle ne se trouve pas dans rien de ce que nous faisons et nous devons bien le saisir. Mais il y a une réponse. Le ciel ne peut être vôtre, vous ne pouvez obtenir le sourire de Dieu. Vous ne pouvez être trouvé juste en Dieu. Aucun juif ne le peut, aucun gentil ne le peut. Ce qui nous amène à notre deuxième point. considérant concernant tout le propos de la justification, l'action de Dieu, le juste juge dans la signification, ou la signification de la justification. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être qu'il n'y a pas de mot connu dans la Bible plus critique pour vous et moi à comprendre lorsqu'il en vient à l'Évangile de Jésus-Christ que ce mot « justifié » en caractère gras. Et si vous vérifiez dans quelque lexique grec que ce soit ou travail d'étude que vous feriez, vous trouverez qu'à tous les niveaux, il y a cette réponse conséquente, cohérente, que le mot « justifié » signifie toujours, toujours « déclarer ou prononcer juste ».« Déclarer ou prononcer juste ». C'est de loin la signification la plus prédominante. Lorsque vous pensez ou entendez le mot « justifié », voici ce à quoi vous devriez penser. Vous devriez penser à un juge, à une salle d'audience, une salle de tribunal. Les mots grecs et hébreux qui forment cette famille de mots qui nous donnent le mot « justification ». En anglais, il y a deux mots. Il y a le mot « justification » puis « righteousness ». Ça met plus d'emphase. Ce sont des termes légaux. Nous venons devant un juge. Si nous regardons dans Psaume 50, verset 6, il nous est dit « Et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Nous avons le mot « justice » qui nous amène devant le juge. Le Psaume 96, 13, nous dit « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Encore là, ce mot « justice », il vient de la même famille de mots qui nous amène devant un Dieu saint, Dieu lui-même. Dans Deutéronome 25, le verset 1, nous sommes mis là, en présence d'un tribunal humain. Ce n'est pas un tribunal divin. Ce n'est pas Dieu le juge devant lequel nous venons, mais c'est un tribunal humain. Deutéronome 25, 1. Voyez le langage. Lorsque les hommes auront un procès et se présenteront pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Dans la version Darby, on dit on déclarera juste le juste. On déclarera juste le juste. Donc, il est placé en contraste avec la condamnation. C'est un terme légal. C'est un terme de barreau. C'est un terme qui a une connotation de signe médico-légal. Ce qui a rapport avec le tribunal, c'est comme apporter des signes d'évidence scientifique devant un juge, devant un jury. Dans Romains 3, 4 et 5, Paul présentera cette grande doctrine de la justification. Nous le voyons utiliser cette terminologie une dizaine de fois dans trois chapitres de Romains. Mais avant d'aller voir où il expose la justification, il nous donne dans Romains 1 et Romains 2 une partie de Romains 3. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous amène dans une cour de tribunal. Paul agit en manière de procureur de la couronne. Il agit pour le compte de Dieu, le juge, et il cherche à prouver que tous les hommes sont coupables. Tous les hommes sont condamnés devant Dieu. C'est pourquoi vous trouverez ce langage de jugement dans Romains 1, 32 et dans Romains 2, 16. « Quand Dieu jugera les actions secrètes des hommes », nous est-il dit. Nous sommes sous la condamnation, nous sommes coupables, nous sommes des transgresseurs de la loi. Et ainsi, cette accusation infaillible est contre nous tous. Dans Romains 3, 10, il nous est dit, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 19, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous avons vu ce contexte judiciaire de juge, de loi, de culpabilité, de condamnation, que l'apôtre présente maintenant. Maintenant, l'apôtre présente cette doctrine de la justification. Dans Romains 3, 21, jusqu'à Romains 4 et Romains 5. Vous voyez, pour comprendre la justification, vous devez penser à vous-même comme celui qui vient devant un juge saint appelé Dieu et qui vous trouve coupable en tant que pécheur. A.W. Pink, une citation de Pink, il nous dit « La justification fait référence au côté légal du salut. C'est un terme judiciaire, un mot de la cour du tribunal. C'est la sentence d'un juge sur une personne qui a été amenée devant lui pour le jugement. » Frères et sœurs, c'est ici où la confusion existe à profusion, et ce l'est réellement. Cela a résulté en deux doctrines différentes de la justification. Lorsqu'un juge fait un prononcé, une déclaration de non-culpabilité, il n'essaie pas de faire en sorte que la personne est bonne de l'intérieur. Il déclare, c'est une déclaration, il déclare que cette personne n'est pas coupable du crime dont elle est accusée. Je vais essayer de simplifier un peu en donnant un exemple. C'est la différence entre passer la nuit dans une chambre d'hôpital et d'aller à une cour de tribunal. Peut-être voyez-vous déjà la différence. Vous allez à l'hôpital, peut-être que vous avez un problème avec votre appendice. Et cela doit être enlevé, cela doit être opéré. Donc, vous y allez, on vous opère. Quelque chose se produit à l'intérieur. Lorsque vous venez à la cour du tribunal, vous ne venez pas devant un médecin, mais devant un juge qui fait une déclaration. La justification n'est pas interne, elle est externe, elle est objective. Elle fait affaire avec, j'ai appelé ça le mauvais dossier. En anglais, je n'ai pas trouvé la traduction idéale, ils appellent ça le bad record. J'ai traduit le mauvais dossier, mais je n'ai pas trouvé mieux. Mais avec le cœur mauvais, la sanctification, la régénération, fait affaire avec le cœur mauvais. Donc, la sanctification, la régénération, c'est quelque chose d'interne. La justification fait affaire, traite avec le mauvais record, mauvais dossier. Nous avons deux problèmes. Nous avons un cœur mauvais et un mauvais dossier. La justification traite avec le mauvais dossier. Vous vous tenez dans la cour de Dieu et il a ce marteau à la main et il va faire une déclaration. Une citation de John Murray dans son livre « Redemption Accomplished and Applied », il dit « La distinction est vitale. La pureté de l'Évangile est liée avec la reconnaissance de cette distinction. Si la justification est confuse avec la régénération ou la sanctification, la porte est ouverte pour la perversion de l'Évangile. » Je répète. Si la justification est confuse Avec la régénération et la sanctification, la porte est ouverte pour la perversion de l'Évangile. L'enseignement catholique romain sur la justification dit que c'est une infusion de la grâce. C'est quelque chose d'intérieur. Ils mettent sur le même pied la justification avec la sanctification. La doctrine biblique dit que la justification nous amène dans une cour de tribunal et non pas dans une chambre d'hôpital. C'est crucial de comprendre de ce que Dieu fait dans la justification lorsque nous pensons à ces termes. Bien, encore là, j'ai le terme anglais, judicial counter. C'est une doctrine importante. Ce n'est pas une doctrine insignifiante. Le cœur de l'Évangile est en cause. Luther dit, la doctrine est le maintien et la chute de l'Église. Mais comment une personne peut-elle être justifiée? Comment un pécheur peut-il être justifié? Comment Dieu peut-il déclarer un pécheur juste et ne pas assouplir, relâcher les demandes de sa sainte loi? Nous en venons maintenant à notre troisième considération. Nous avons vu que le problème de la justification est le problème auquel le pécheur fait face. Il ne peut se justifier lui-même. Nous avons vu la signification de la justification ou ce que cela signifie lorsque nous parlons de justification. C'est l'action de Dieu, le juge, faisant une déclaration en regard d'un pécheur coupable et déclarant ce pécheur juste à sa vue. Donc, le troisième point, c'est les bases pour le don de la justification. C'est Dieu qui justifie. Il est le juge juste. Mais comment se fait-il? Comment cela se fait-il? Comment déclare-t-il un pécheur juste? Dieu ne peut fermer les yeux sur le péché. Il ne peut faire de clin d'œil au péché. Alors, comment Dieu agit-il? Dans Romains 4, 5, il nous est dit, « Dieu justifie l'impie. » Comment un Dieu saint peut-il justifier les pécheurs impies, les pervers sexuels, des hommes qui ont été ivrognes toute leur vie, forniqueurs, adultères, voleurs? Comment Dieu justifie un homme, une femme, un garçon, une fille qui a menti, qui a volé, qui a triché, qui a trompé, qui a commis toutes sortes de péchés par la langue et le cœur, tellement qu'ils ne peuvent les compter? Comment Dieu peut-il justifier un pécheur, un Dieu saint, et dans aucune manière compromettre sa justice et sa droiture et être parfaitement conséquent avec sa sainteté impeccable? Vous voyez le problème? Eh bien, le problème a une réponse, une solution en raison d'une personne appelée Jésus-Christ. Lorsque Paul pense à la justification, il n'y pense jamais isolément de Jésus-Christ et de sa mort et de sa vie. Notez ici dans Galates 2, alors qu'il commence à exposer la doctrine de la justification, comme il a déjà été mentionné, il utilise ce mot « justifié » quatre fois dans quelques versets. Mais il mentionne aussi Jésus-Christ cinq fois. Vous voyez, il ne peut penser à la justification devant un Dieu saint sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé de ce mystère, de ce dilemme éthique moral. Jésus fournit la réponse, la solution, et il est le seul à pouvoir le faire. Comment peut-il le faire? Voici comment. Jésus-Christ a fait deux choses pour les pécheurs. Il s'est substitué pour les pécheurs de deux manières. Il est mort la mort qu'ils auraient dû subir. Il a souffert la punition du péché. C'est pourquoi Paul poursuivra dans Galates 3, 13. Il est devenu malédiction pour nous. Un Dieu saint doit punir le péché, et s'il ne punit pas le péché, Dieu cesse d'être Dieu. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix. C'est pourquoi Jésus est mort au mont du Calvaire ou Golgotha. Il est mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il y est allé en tant que bouc émissaire ou comme l'agneau de Dieu. Il y est allé à notre place. Mais Jésus a fait quelque chose d'autre. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés que nous avions besoin. C'est la moitié de la justification. Jésus s'est substitué pour nous d'une autre manière. Il est mort à la place de ceux qui auraient dû mourir. Mais il a vécu aussi une vie parfaite. C'est pourquoi il y a ce stress lorsque nous lisons la Bible. Jésus sans péché, sans tâche. C'est pourquoi l'Ancien Testament exigeait un agneau pur, sans tache. Tout pointait vers quelqu'un qui vivrait une vie parfaite. La Bible nous dit que Jésus a été obéissant même jusqu'à la mort. Quand Ponce Pilate pouvait dire « Je ne trouve rien de coupable en cet homme » dans Luc 23, 4, en un sens, il précisait la parole de Dieu dans le ciel. Le Dieu qui pouvait dire au début et à la fin du ministère de Christ, dans Matthieu 17, 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Lorsque l'apôtre Paul expose la doctrine de la justification dans Romains 5, il place devant nous deux hommes, deux Adam. Le premier, Adam a failli, il a péché, et en Adam, nous avons tous péché. En Adam, nous sommes tous condamnés, et il poursuit, et il place devant nous l'autre Adam, qui est le Christ Jésus. Et il nous laisse savoir que par cet homme, Adam, cet homme parfait, Adam, dans son obéissance active et sa justice, cela conduit à la justification pour tous les hommes, tous ceux qui croient en lui. Romains 5, 19, « En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Vous voyez la base, le fondement de la justification est le sang et la justice de Jésus-Christ. Rien de ce que nous avons fait, mais de ce que lui a fait. C'est pourquoi Dieu peut pardonner un pécheur et il peut pardonner à n'importe quel pécheur, tous les pécheurs, les pires des pécheurs. Il peut pardonner tous les péchés de tous ceux qui sont trouvés en Christ. Il peut les déclarer non coupables. Il peut les déclarer parfaitement justes. Il peut leur donner la robe blanche, parfaite, sans aucune tache. C'est la robe de Christ. Vous devez comprendre cela aussi. Le moment où un pécheur croit en Christ, à ce moment précis, il y a cette déclaration par Dieu. Dieu déclare ce pécheur non coupable. C'est pourquoi un chrétien peut chanter, et seulement un chrétien peut chanter. Grâce infinie de Dieu. Et c'est pourquoi les réformateurs ont écrit des hymnes. Les bases de notre justification sont la vie du Christ Jésus ainsi que sa mort. La dernière chose que très brièvement concernant la justification. Comment puis-je recevoir cette bénédiction? Ce n'est pas tout homme qui a cette bénédiction. Certainement pas ceux qui essaient de se justifier eux-mêmes et essaient d'aller au ciel par leur loi, par leurs bonnes œuvres. Comment puis-je recevoir ce cadeau de Dieu? Eh bien, regardons au texte. Galates 2, 16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, c'est l'aspect négatif, mais par la foi en Christ Jésus. La foi est le mot actif dans la justification. C'est l'instrument. Nous ne sommes pas sauvés en raison de la foi. Nous sommes sauvés par Christ. Mais la foi est l'instrument, le moyen auquel je me tiens à Christ, je m'accroche à Christ, je me rattache à Christ. Le pécheur doit croire en Jésus-Christ. Mais ce qui est écrit dans ma Bible, Romains 5, 19, et si ce n'était pas écrit, ça serait difficile d'y croire, mais c'est écrit. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes assis ici ce matin, non pas plus parce que vous êtes à la maison, ou ouvrez un livre de prière, ou que vous récitiez quelques rosaires. Ce n'est pas une œuvre. La foi n'est pas une œuvre. La foi est un don, un cadeau, une grâce. C'est comme la bouche ouverte, vide. C'est comme la main vide d'un pauvre mendiant. Le mendiant qui vient avec rien dans ses mains et il crie « Sois miséricordieux pour moi qui suis un pécheur. » Vous n'amenez rien. Amenez quelque chose et vous vous condamnez vous-même. Vous devez vous accrocher à Christ. C'est ce que la foi est. Accrochez-vous à Christ, à lui seulement. Et quelque chose de merveilleux se produira à la cour céleste. Et même les anges seront haletants d'émerveillement. Dieu déclarera ce pécheur croyant juste à sa vue. Vous vous rappelez la parabole de Jésus dans Luc 18, lorsque deux hommes montent au temple. Un était pharisien, un homme très religieux. L'autre, un collecteur de taxes, un grand pécheur. Et c'est le collecteur de taxes qui est retourné chez lui, justifié, non pas le pharisien. Les deux montent au temple. Le pharisien, je suis bon, bon gars, je jeûne, je donne la dîme, je fais tout, tu sais, bonnes choses. Mais ce collecteur de taxes, ce pécheur scandaleux, il est venu, il a prié, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. La Bible nous dit qu'il est retourné chez lui justifié. La justification par la foi seule, par la grâce seule et par Christ seul. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour cette doctrine que tu as placée, Seigneur, dans ta parole pour notre instruction. Seigneur, aide-nous à bien comprendre, à bien saisir, Seigneur, les fondements de ta parole, Seigneur, les bases. Aide-nous, notre Dieu, à non pas à se justifier nous-mêmes, Seigneur, mais à regarder à Christ par la foi pour notre justice, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.